France Inter, le 7-9.
Ali Badou, vos invités ce matin sont historiennes.
Et elle publie un livre important au moment où la contraception et la liberté de l'avortement subissent partout les assauts des conservateurs, c'est ce qu'elles écrivent. Le titre de ce livre, Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, 1953-1956, c'est publié aux éditions du Seuil. Daniel Voldman et Annette Wiewiórka, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et bienvenue, c'est l'histoire d'un fait divers que vous racontez, un fait divers méconnu qui est à l'origine d'une étape déterminante dans cette grande bataille qui aboutira à la loi Neuwirth, qui aboutira à la création du planning familial, à la légalisation de la contraception. Les jeunes d'aujourd'hui connaissent tous la loi Veil sur l'avortement. En revanche, la naissance...
connaissent à peu près, mais la loi Neuwirth sur l'autorisation de la contraception est moins connue.
Et pour comprendre Annette Wiewiórka, il faudrait donc raconter l'histoire de ce couple, Claude et Ginette Bach.
C'est un jeune couple d'ouvriers de Saint-Ouen, des gens sans importance, alors qu'ils ont tous les deux 23 ans. Elle est enceinte de son cinquième enfant. Ça signifie que depuis l'âge de 18 ans, elle a eu un enfant pratiquement chaque année.
On est dans l'après-guerre, on est donc à Saint-Ouen, Claude est ouvrier, il est ouvrier mécanicien, Ginette elle est bonne à tout faire et puis ensuite elle devient mère au foyer, ils font l'amour, ils font des bébés, 1, 2, 3, 4, et quand elle est enceinte de son quatrième enfant, de son cinquième enfant, c'est une catastrophe pour le ménage.
C'est une catastrophe, oui, puisqu'elle laisse sans soin cette petite fille.
Daniel Voldman.
Cette petite fille de 8 mois, c'est une catastrophe parce que s'occuper de 4 enfants quand on est enceinte du 5e, c'est fatigant. Et elle n'a pas d'aide, il n'y a pas une femme de ménage qui vient l'aider. Ils habitent dans un petit appartement et c'est difficile d'élever comme ça 4 enfants et d'avoir le poids du 5e dans le ventre.
Et vous racontez d'ailleurs leurs conditions de vie, cet appartement, Ginette qui est déprimée, qui est épuisée, qui n'arrive pas à allaiter le nourrisson, son dernier enfant, qui n'arrive pas à faire face à tous les travaux ménagers, et puis tout commence à aller mal.
En fait, elle est en dépression, une dépression profonde, et qui la rend incapable de ne rien faire. Et ce petit bébé, qui était né à... qui pesait 4 kilos à la naissance, à 8 mois ne pèse plus que 2 kilos, puisqu'elle le nourrit plus, elle ne le change pas. Il est perpétuellement dans une pièce fermée, et personne ne se rend compte de rien, y compris d'ailleurs Claude, son mari.
On va aller plus vite dans l'histoire pour juste dire en quelque sorte ce qui leur arrive, puisque leur quatrième bébé donc meurt, et puis ils sont arrêtés, Claude et Ginette, ils comparaissent devant la justice. En 1954, ils sont condamnés à 7 ans de prison.
À 7 ans de prison, non pas pour infanticide, mais pour homicide involontaire par manque de soins à enfant. 7 ans, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, il y a quand même eu une mort, et donc ils se retrouvent en prison. Les 3 autres enfants sont recueillis par les grands-parents et par la famille, et c'est une histoire qui aurait pu ne pas avoir plus de retentissement.
Un fait divers,
surtout que peut-être pas en allant jusqu'à la mort, mais ça arrivait souvent qu'il y ait des maltraitances d'enfants et l'enfance malheureuse était d'ailleurs quelque chose que le gouvernement prenait en considération.
Mais coup de théâtre, le procès est, enfin le jugement est cassé et il y a donc un second procès.
Et là, pour le coup, était un fait divers va devenir un fait de société. La presse commence à en parler.
Et il y a deux histoires parallèles. C'est-à-dire l'histoire des époux Bach et l'histoire d'une gynécologue, Marie-Andrée Lagroix-Veillalé.
Qui va faire basculer le procès.
Depuis quelques années, essaye de se faire entendre et essaye de lutter pour que on abolisse les articles de la loi 1920 qui interdisent la propagande de la contraception.
Parce qu'il faut revenir à la France de cette époque-là, et c'est vrai que c'est un autre monde. Il faut imaginer que dans les années 20, et donc après le vote de cette loi de 1920, non seulement la contraception est interdite, Daniel Voldman, mais on ne peut même pas faire la propagande, comme dit la loi, de la contraception.
C'est ça, c'est non seulement la vente des produits contraceptifs, il n'y avait pas encore la pilule, mais il y avait quand même quelques moyens de contraception, dont les préservatifs masculins. Donc c'était interdit, la propagande était interdite, et c'était donc une loi nataliste. C'était accompagné de, évidemment, l'interdiction de l'avortement. Et dans les années 50, on a parallèlement un boom démographique, il y a beaucoup de naissances, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'avec ce boom de naissances, il y a aussi un boom des avortements. Parce que si on prend ce cas particulier des époux Bach, 5 enfants en 5 ans, c'est un peu difficile à vivre.
Et ce que raconte cette histoire, c'est l'histoire que vous racontez, c'est l'impuissance des familles à réguler leur fécondité. C'était il n'y a pas si longtemps. Cette femme, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais, comment est-ce qu'elle va faire basculer le procès à Annette Wiewiórka, le deuxième procès des époux Bach?
Elle va le faire basculer en témoignant sur le fond, non pas sur le cas précis, et en créant avec son mari, Benjamin Veil-Allais, avec une sociologue dont on se souvient peut-être, qui s'appelle Evelyne Sullerot, en créant une association, la Maternité Heureuse, et en usant des médias à l'époque où on aimait encore la presse écrite. Et grâce à elle, Jacques de Rogy va faire une grande campagne dans le Libération de l'époque, la Libération de Dacier de la Vigerie. Et on peut dire que ça va libérer la parole des femmes, ça va créer un mouvement qui malheureusement ne portera pas tout de suite ses fruits à cause d'une espèce de coalition entre le Parti communiste et les catholiques, mais qui aboutira quand même 12 ans après à la loi Neuwirth.
Elle crée cette association Maternité Heureuse qui va devenir le planning familial. C'est aussi cette histoire-là, l'histoire de ce combat-là que vous racontez. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs, c'est les tristes grossesses. Finalement, elles ont un aboutissement qui sera celui d'une libération des femmes. Il faudrait que toutes les jeunes filles, d'ailleurs tous les jeunes d'aujourd'hui, lisent ou connaissent cette histoire-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en racontant cette histoire des époux Bach, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une jeune fille de 15, 16 ans aujourd'hui, Annette Wiewiórka?
Moi, je dirais qu'elles ont de la chance par rapport à leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, et que cette chance, c'est-à-dire un accès libre et facile à la contraception, elles ne doivent pas la manquer.
Exactement, c'est ce qu'on peut dire. Et pas seulement les jeunes filles d'ailleurs, tout le monde.
Oui, tout le monde. Des centres aujourd'hui du planning familial qui ne peuvent pas toujours faire leur travail. On a vu récemment à Paris une manifestation de milliers de personnes. C'était dimanche dernier, la marche pour la vie contre la révision des lois de bioéthique, mais qui mettait aussi en cause l'IVG. Ça vous étonne que ça revienne aujourd'hui dans la France de 2019, ces combats-là, Annette Wiewiórka?
Ça m'indigne. Mais en tant que historienne, on n'est jamais étonné de voir revenir des choses plus anciennes.
Alors même qu'on a l'impression que ces combats ont été gagnés, Daniel Volman.
Rien n'est jamais gagné. On croit toujours que on va vers le progrès, on va vers la liberté. Si on regarde l'état du monde aujourd'hui, je crois que rien n'est jamais gagné, aussi bien sur le plan politique que sur le plan plus sociétal, qui est de toute façon une question politique aussi.
Il y a de nombreuses jeunes filles aujourd'hui qui ne prennent plus la pilule. C'est aussi dans l'air du temps. Elles ne sont plus que 33% à prendre la pilule. Ouais.
Alors, d'abord, ce qui est aussi stupéfiant, c'est de voir que le combat de ces femmes, que ce soit Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais, Simone Veil, Evelyne Sullerot et beaucoup d'autres, c'était dans l'idée que la contraception, c'était important, et que l'avortement ne devait être là que pour l'échec de la contraception. Oui. Or, on s'aperçoit qu'il y a une stabilité autour de 200 000 du nombre d'avortements qui, heureusement aujourd'hui, ne cause plus les drames, c'est-à-dire les milliers de morts qu'il causait dans les années 50. Et ça, c'est une chose formidable. Mais en même temps, on se dit, voilà, tout le baby-boom et l'avortement boom des années d'après-guerre, c'était dû à une méthode naturelle, la méthode du docteur Ogino, oui. Et on voit ces jeunes femmes reprôner une méthode naturelle. c'est assez stupéfiant pour des jeunes éduqués.
Volman, le mot de la fin.
C'est le retour à la nature qui n'est peut-être pas aussi bien que l'accès à la culture.
Merci à toutes les deux. Merci d'avoir été nos invités et merci d'avoir raconté l'affaire des époux Bach. Triste grossesse, c'est au pluriel et c'est publié aux éditions du Seuil. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Et merci à vous, Ali.